Bondy Blog Café.
www.bondybloccentre.fr.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre émission du Bondy Blog Centre Café de Radio Campus Orléans. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la mobilisation des personnels soignants en France le mardi 16 juin suite à un appel formulé par plusieurs organisations syndicales. Le Bondy Blog Centre avait déjà traité le sujet en janvier dernier lorsque nous les avions rencontrés dans la rue à l'occasion des manifestations contre la réforme des retraites. Aujourd'hui, nous vous proposons une interview de Grégory Kiné.
Allô ?
Oui, bonjour, Daniel Begdad de Radio Campus Orléans.
Oui, bonjour.
Et nous allons donc retrouver Grégory Kiné. Il est délégué syndical au Centre hospitalier régional d'Orléans depuis 2006 pour le syndicat solidaire, unitaire, démocratique, santé, Sud Santé. Bonjour Monsieur Kiné.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pourriez déjà dans un premier temps nous expliquer comment au Centre hospitalier régional d'Orléans vous avez eu à mener la gestion de cette crise donc pendant le confinement entre la mi-mars et la mi-mai?
Alors, avant tout, nous, Sud Santé, avons fait une demande au départ, vraiment avant qu'il y ait le confinement, d'un CHSCT exceptionnel par rapport au Covid, sur ce qui pouvait arriver à l'hôpital et comment anticiper l'évolution de la crise, auquel la direction avait dit « il ne faut pas s'inquiéter, tout est maîtrisé et la crise est arrivée ». Et effectivement, en fait, tout s'est géré au fil de l'eau, puisque d'une manière ou d'une autre, chaque jour évoluait différemment et la direction ne pouvait pas forcément n'apportait pas les bonnes réponses dès le départ.
Alors, à quel moment vous les avez alertés en amont ?
À peu près une semaine et demie avant le début du confinement.
D'accord. Quelles sont les difficultés que vous avez eues à rencontrer pendant la gestion de cette crise ?
La difficulté, c'était avant tout déjà l'organisation du Covid, puisque on partait d'un service de réa et d'un service infectieux, mais en fait, avec l'évolution, il fallait toujours évoluer et anticiper, puisque l'hôpital, au départ, considérait qu'on passerait pas en stade 3 ou avec lequel on aurait juste notre réa qui suffirait, le service infectieux, et au bout du compte, il a fallu redéployer les deux réa Covid plus plusieurs services de soins. Et en même temps, il y avait la gestion de matériel, bien entendu, avec la maîtrise des masques, des protections, qui étaient un peu difficiles à gérer.
C'est-à-dire que vous aussi, vous avez souffert de l'absence de masques ?
Alors, disons que oui, on a eu des difficultés de masques, bien sûr, parce que les services qui étaient étiquetés Covid avaient le matériel, mais les autres services, il n'y avait pas forcément les masques adaptés, tout en pensant qu'il n'y aurait pas de Covid. Mais évidemment, il y a eu des patients qui se sont retrouvés Covid dans des services non Covid et que les protections n'étaient pas forcément systématiques avec le masque bien adapté.
Alors, en janvier, on a eu l'occasion avec le Bondy Blog Centre de Radio Campus Orléans d'aller interviewer dans la rue des personnes. Alors, c'était à l'occasion de la manif contre la réforme des retraites et donc nous avions trouvé d'autres secteurs professionnels tels que les avocats, les professeurs de lycée, mais également du personnel soignant d'Orléans-la-Source qui faisait déjà certaines revendications. Qui sont toujours d'actualité. Est-ce que vous pourriez revenir un peu donc en amont, en début janvier, sur les revendications que vous faisiez lorsque vous étiez dans la rue ?
Les revendications qu'on avait étaient très simples. Au-delà de la retraite auquel on s'est opposé, puisque le Covid a bien démontré que voilà pourquoi la retraite, on ne voulait pas la repousser, parce que vous voyez, les hospitaliers doivent s'adapter à toute situation et le Covid est arrivé, on a démontré que les salariés faisaient leur travail et s'adaptaient. Mais est-ce qu'à 64 ans, on sera en capacité de pouvoir faire encore ceci ? Il y a un moment, il y a nos limites. Les conditions de travail avant le Covid sont les mêmes maintenant, c'est-à-dire qu'on ferme des lits, on réduit le personnel et on ne peut plus produire la qualité de soins, et que nos revendications sont toujours les mêmes. Et effectivement, la réforme de la retraite, on n'en veut pas, mais c'est aussi l'ouverture de lits, de moyens pour pouvoir prendre en charge la population et réellement une revalorisation de salaire, puisque vous savez, c'est le salaire moyen hospitalier au niveau de l'Europe, on est classé 27e, on n'est même pas dans la moyenne. Donc nos revendications sont toujours les mêmes. Elles ne changent pas. Et les conditions de travail après le Covid sont toujours les mêmes. Et au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle l'après-Covid, qui, une fois que les gens ont donné et n'ont pas posé de questions à faire le travail qu'il y avait à faire, mais l'après-Covid, il est très difficile. Les gens décompressent et ça devient très difficile parce que l'hôpital reprend son activité normale. Il n'y a pas eu de pause, en fait. Il y a eu le Covid où il a fallu s'adapter et on reprend l'activité de la vie de tous les jours, et que la réadaptation, en plus avec des difficultés de matériel, mais qui est liée au problème d'approvisionnement au niveau national, puisqu'on a des tailles de gants maintenant qui ne sont plus disponibles, il faut se réadapter à chaque fois à que, comme la société doit reprendre, et ben, le matériel, c'est la même chose. Donc on va avoir des problèmes de difficultés de matériel qui seront des approvisionnements difficiles par rapport au niveau national.
Et donc, vous aviez parlé aussi de réduction de personnel. Pourquoi est-ce que vous demandez justement avoir plus de personnel?
Bah, c'est simplement simple. C'est simple. C'est de prendre en moins la qualité, en qualité les usagers. C'est de pouvoir produire un soin de qualité. Quand on vous réduit le personnel avec toujours le même nombre de patients, il est clair que la prise en charge, elle est nettement moins efficace qu'avec une qualité, avec un effectif et une qualité démontrée, quoi.
Alors, vous êtes aide-soignant, vous avez des collègues infirmiers, infirmières. Aujourd'hui, combien de patients sont à la charge d'un aide-soignant, par exemple, ou d'une aide-soignante?
Alors, l'organisation, c'était tout a été déconstruit, en fait, avec l'ouverture du nouvel hôpital d'Orléans, puisqu'en moyenne, avant, on avait une infirmière pour 8 patients, une aide-soignante à peu près pour 8 patients aussi. Maintenant, on est dans une organisation à une infirmière pour 15 patients et aide-soignant à peu près équivalent.
Ah oui, du simple au double alors.
Oui.
Et donc la difficulté, c'est justement lors d'une gestion de crise, vous êtes obligé d'établir des priorités.
Alors la gestion de crise, en fait, ce qui fait, c'est que évidemment, il y a beaucoup de spécialités qui ont arrêté. Il y a des gens, alors la population, par appréhension, il y a des gens qui sont restés chez eux. Il y a certains programmes opératoires non urgents qui ont été repoussés. Donc, ce qui fait qu'il y a des services qui se sont un peu fermés et qui a permis de déployer un peu de personnel. Mais au-delà de ça, même en déployant le peu de personnel qu'on pouvait redéployer, il a fallu des renforts extérieurs énormes. Donc, beaucoup des étudiants infirmiers de troisième et deuxième année. Du personnel de clinique qui, du coup, du fait du Covid, n'avait pas beaucoup d'activités, sont venus en renfort pendant un certain temps, hein, à peu près un mois et demi. Et donc, effectivement, il y a des services comme l'ARIA qui a pu passer à 220 personnes pour faire la prise en charge Covid. Mais au moment où ça a diminué, tout reprend son activité et on revient dans les mêmes difficultés. Après, un exemple, moi j'ai été renforcé en réa pour 2 mois, à peu près 8 semaines, et ça m'a fait faire 72 heures supplémentaires alors que j'en avais pas. Vous voyez ce que ça veut dire, sur 8 semaines.
Alors, vous aviez dit justement que ça avait été épuisant pour la plupart des collègues de vos collègues à Orléans. Y en a qui ont craqué.
Oui, il y a des gens, en fait, mais c'est plutôt socio-professionnel, hein. C'est plusieurs catégories, c'est pas forcément que les soignants. Il y a beaucoup de gens qui ont décompressé, mais ça peut être des soignants, ça peut être de l'encadrement. Je crois que la crise a été difficile pour tout le monde, mais même le secteur ouvrier ou administratif qui ont réellement participé, il y a pas le Covid, c'est pas que les soignants. Parce que sans les ouvriers et les administratifs, un hôpital ne fonctionne pas, et en période de crise, c'est le même principe. Les soignants, d'accord, sont au cœur du patient, mais le matériel, la logistique, elle est faite par le personnel ouvrier et administratif, et si on n'a pas ça, on ne peut pas travailler non plus. C'est le même principe, donc tout le monde est impacté. Et oui, il y a des gens, effectivement, qui décompressent et qui sont dans la difficulté actuellement. Et puis, ce qui est le facteur réellement de cette... l'un des facteurs, c'est cette fameuse annonce de prime fait par le gouvernement, qui est une prime qui divise, puisque à l'hôpital, on va donner 1 500 € à certains et 500 € à d'autres. Alors qu'on considère, nous, à Sud, que toutes les personnes, tout professionnel était obligé de changer ses habitudes pour faire fonctionner l'hôpital. Ils ont aussi fallu qu'ils s'organisent à la maison parce qu'il y avait un impact. Évidemment, il n'y avait pas d'école et tout. Donc, tout le monde a trouvé un système d'organisation. La DRH a quand même essayé de faire le nécessaire pour la garde d'enfants, de s'adapter. Mais n'empêche que tout le monde a modifié ses façons de travailler pour le Covid et pour que l'hôpital fonctionne pour la population. Et malgré tout, cette prime-là, elle divise parce que tout le monde n'aura pas la même prime. Et ça, c'est aussi un facteur qui fait que, effectivement, ça crée des tensions.
Surtout que vos revendications ne se limitent pas à une augmentation de salaire. Hein. Vous le disiez tout à l'heure, justement, il faudrait réouvrir des lits et réembaucher du personnel pour éviter, pour permettre justement un meilleur accueil des patients. C'est bien ça. Cette prime, comment est-ce que vous la percevez d'un point de vue symbolique ? Alors, il y a l'histoire de la prime. Bon, vous dites qu'elle divise parce qu'elle ne sera pas la même en fonction des personnels. Il y a eu aussi cette annonce de vous faire défiler lors du 14 juillet. Qu'est-ce que vous pensez de la politique du gouvernement envers ces personnels soignants ?
Non, on ne veut pas l'aumône. On ne veut pas de l'aumône. Le défilé 14 juillet, bien entendu qu'on n'en veut pas. Nous avoir applaudi pendant la crise, c'est une chose, mais derrière ça, l'hôpital reprend ses travers. On est toujours dans la même difficulté et c'est pas une médaille, une prime ou... alors, une prime, bien entendu, l'argent, les gens vont à la prime. Tout le monde va la prendre, l'argent, bien entendu. Mais malgré tout, faut savoir que le salaire moyen hospitalier, il est quand même très bas. Le coût de la vie, on a eu le gel de l'indice depuis 10 ans, nous n'avons pas d'augmentation de salaire. Il faut le savoir aussi. Et que au-delà de ça, non, on veut pas l'aumône, quoi. Une médaille ou un défilé, non, ça nous intéresse pas. On veut une vraie reconnaissance du travail qui est fait par les hospitaliers et l'offre de soins qui est faite à la population. C'est ça, nous, qu'on veut. Soigner les gens correctement et sereinement.
Le président de la République a parlé hier soir. Il y a un mouvement national qui s'organise partout en France concernant donc ces applaudissements qui ont eu lieu pendant le Covid, où vous appelez donc les personnes qui ont applaudi pendant le confinement de venir vous rejoindre dans la rue. Pas un mot sur la manif de demain, sur la réinvention de l'hôpital. Qu'est-ce que vous attendez, vous, des prochaines semaines, notamment concernant, par exemple, le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui pourrait peut-être se prononcer?
Alors, vous savez que, de toute façon, maintenant, il y a le Ségur, et le fameux... rencontre intersyndicale pour l'évolution du fonctionnement de l'hôpital et des revalorisations de salaire. Alors, nous, Sud Santé, on s'est retirés. On s'est retiré de la négociation. Pourquoi ? Parce qu'il ne fallait pas oublier qu'avant la crise, il y avait l'interurgence et l'interhospitalier qu'on soutenait, qui est un ensemble, qui est un collectif de personnel médical et non médical, paramédical, et que certains syndicats ont exclu ces mouvements de la négociation, alors que ce sont des gens qui sont au cœur du métier. Donc ça, on ne pouvait pas. Et au-delà de ça, déjà, les premières conditions que Ségur suggère, pour une augmentation, c'est déjà de sacrifier les 35 heures, auxquelles certains syndicats sont d'accord, de sacrifier les 35 heures. Mais si on nous sacrifie les 35 heures, si on sacrifie les 35 heures, ça ne veut pas dire qu'on aura une augmentation de salaire, mais on va travailler plus. Et effectivement, on gagnera à la proportionnelle de ce qu'on va travailler. Donc, et puis, il faut savoir que M. Macron a mis Mme Nicole Notat, ancienne secrétaire d'État de la CFDT, en négociation. Mme Notat, c'était la première en 2004 à avoir saboté les 35 heures et la retraite vis-à-vis du personnel. Donc, oui, le Ségur, qu'est-ce qu'on y attend réellement et quelles sont les conditions ? On a du mal à croire qu'on va les augmenter un salaire sans condition.
D'accord. Alors, je vous entends un peu moins bien.
Ah, excusez-moi. Je ne sais pas pourtant.
Ah, d'accord. Donc, c'est mal parti, les négociations avec le gouvernement, semble-t-il ?
Pour l'instant, oui, parce qu'on pense que, d'une manière ou d'une autre, ce sera toujours le sacrifice d'eux. Et que, si augmentation de salaire, de toute façon, on a bien compris que ce sera au détriment d'eux, puisqu'on est habitué d'avoir un gouvernement qui, quand il nous donne quelque chose, il nous le reprend trois fois. Donc, il est clair que c'est une augmentation des personnels, quelle est la contrepartie qui va nous imposer. Alors, tout en sachant quand même que M. Macron, pendant la crise Covid, même si médiatiquement ça n'a pas été dit, a demandé à la Cour des comptes de savoir comment on pouvait privatiser au maximum le secteur hospitalier. Vous voyez, entre ce qu'il dit à la population et la réalité des choses, il est toujours dans le but de privatiser au maximum le secteur hospitalier. Donc, ce qui veut dire que d'une manière ou d'une autre, on ne pourra pas offrir une qualité de soins comme on offre maintenant, et certainement moins pire qu'avant, quoi.
Oui, donc c'est ce que vous expliquez, c'est-à-dire que en changeant le plafond des 35 heures pour travailler plus, ça vous permettra pas, vous, d'avoir plus de personnel dans les services.
Non, pas du tout. Et puis, il faut penser que on a des rythmes de travail qui sont pas de journée classique 9h-17h. C'est du matin, c'est du soir, c'est de la nuit, c'est du 12h. C'est des 3-8, il y a des astreintes, il y a des gardes. Donc on a un rythme quand même avec des horaires très atypiques, et que augmenter ce temps de travail alors qu'il y a déjà une fatigue, plus le Covid qui a fatigué encore plus les gens, on ne va pas favoriser du tout. Nous, c'est pas de donner... on peut donner la population, on donne, mais derrière, on nous enlève tout. Et c'est que on a l'impression qu'on va nous faire revenir au temps où on était dans des hospices, où il y avait des sœurs qui travaillaient à 24. C'est ça, hein. Vous savez, les infirmières se sont revendiquées dans les années 80 en disant ni non ni soumise, mais on a l'impression de faire une grande machine en arrière où on nous demanderait pratiquement de faire les sœurs, quoi.
D'accord. Est-ce que les revendications que vous avez ont une incidence sur la prise en charge des patients, c'est-à-dire donc le manque de lits, le manque de personnel? Est-ce que ça a une incidence sur la prise en charge des patients?
Non, parce que quoi qu'il arrive, le personnel hospitalier a une conscience professionnelle et sait que d'une manière ou d'une autre, même si nous revendiquons, nous savons qu'en plus nous avons l'obligation de soins. Comme nous sommes en grève, vous savez que il y a un service minimum qui pour assurer la sécurité. Donc oui, on a nos revendications, mais la population n'aura jamais d'impact. Par contre, la population qui vienne avec nous mardi, parce que voilà, il faut, les gens ont peut-être réalisé que oui, les hospitaliers ont été mis en lumière, oui, ils ont gravé pendant le Covid, oui, ils sont surpassés, mais nous, c'est notre quotidien. Et notre quotidien, les conditions de travail, que ce soit Covid ou pas Covid, sont quasiment les mêmes. Le Covid, ça a que changé nos organisations de travail, mais pas nos conditions de travail. Elles sont toujours pareilles. Non, il y aura... Excusez-moi, allez-y.
Ah non, je vous en prie. Non, c'est que j'étais en train de penser l'aspect positif de ce confinement, c'est que ça a permis aussi peut-être de mettre en lumière votre travail et de peut-être aussi mieux faire comprendre aux Français et Françaises les conditions de travail que vous avez et pourquoi vous faites ces revendications.
Bah, on l'espère qu'ils l'ont compris. On espère que mardi, ils seront avec nous pour nous accompagner dans la rue et réellement qu'ils prennent conscience. L'enjeu n'est pas que les hospitaliers ils aient une augmentation de salaire, qu'ils aient des meilleures conditions de travail. C'est aussi leur couverture sociale et le droit aux soins qui est en jeu. L'impact, il n'est pas que sur le personnel, c'est que politiquement, la santé, c'est la santé de tout usager, et que l'enjeu, il est énorme, parce que l'hôpital, on soigne tout le monde, on se pose pas de questions. C'est pas un supermarché comme on peut être dans une clinique où on dit, vous faites le choix d'être dans une clinique, vous savez que vous avez payé un supplément. Non, l'hôpital, on soigne tout, on fait de la médecine, de la chirurgie, qui n'est pas forcément une activité rentable, mais on a une offre de soins pour toute la population et que tout le monde puisse être soigné.
Et vous craignez une privatisation justement de ce service public ?
Ah bah de toute façon, M. Macron l'a fait spécifier à la Cour des comptes. Et donc, on n'a pas plus de suite. On sait simplement qu'effectivement, une demande est faite à la Cour des comptes pour savoir comment privatiser au maximum le secteur hospitalier. Après, pour l'instant, on n'a pas plus de réponses, mais c'est des mails qu'on s'est accueillis pendant le Covid.
Les urgentistes sont en grève depuis juin 2019 à Orléans-la-Source. Voilà, ils seront bien évidemment, je pense, présents à la manifestation de demain après-midi. Lieu et heure de la manifestation, s'il vous plaît.
Alors, la manifestation, elle est demain. Rendez-vous, elle est à 10h30 à l'Indien, à Orléans-la-Source, pour un défilé jusqu'à l'hôpital d'Orléans. Symboliquement, pour arriver avec, en début de cortège, les hospitaliers et les pompiers qui ont fait partie des gens qui étaient en première ligne. Après, on conçoit, nous, hospitaliers, qu'il n'y avait pas que les hospitaliers en première ligne. Il y avait les services publics, services d'ordre, les pompiers, mais il y avait aussi des magasins. On a quand même certains magasins qui nous ont privilégiés en décalant des heures pour pouvoir que les hospitaliers puissent accéder à faire des courses, en adaptant des caisses spécifiques. Il y a une solidarité extérieure. Maintenant, on voudrait que ceci continue, quoi. Que les gens comprennent que l'enjeu, c'est pas que notre augmentation de salaire, mais c'est aussi leur santé qui est en jeu, dans la prise en charge de leur santé.
Est-ce que vous auriez quelques chiffres à nous donner sur, par exemple, le nombre de personnels manquants, sur le nombre de lits manquants, sur le montant de l'augmentation de salaire que vous souhaitez?
Alors, au niveau lit, en l'espace de 10 ans, il y a eu à peu près une fermeture de plus de 200 lits. C'est énorme, en 10 ans. L'augmentation de salaire, nous, on voudrait 80 points sur chaque salaire, qui est équivalent à peu près à 300 euros net par mois. Et après, vous m'avez dit quoi comme chiffre? Excusez-moi.
Concernant la réduction de personnel.
La réduction de personnel, il y a à peu près, on a perdu. Alors, il y a 2 ans, on nous a supprimé 120 aides-soignants. On a perdu à peu près 300. Entre le projet du VHO et la réalisation du VHO, on a perdu à peu près 300 personnels. Mais tout grade confondu, hein, pas que soignants.
Excusez-moi, j'ai pas bien suivi. Le projet du VHO?
Non, du VHO, excusez-moi. Le nouvel hôpital d'Orléans, excusez-moi,
Ah
le
oui, d'accord.
NHS, parce que le VHO,
Oui.
c'est le vieux bâtiment de la Sauf.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Entre le projet et la réalité, on a perdu à peu près 300 emplois.
Donc des emplois constitués d'infirmiers, infirmières,
Tout grade,
aides-soignants.
administratif, ouvrier, tout le monde a été impacté. Mais il y a 2 ans, par contre, on a réduit à peu près 120 postes d'aides-soignants pour justement augmenter le ratio pour que un aide-soignant ait plus de patients encore à prendre en charge. Ce qui veut dire que tout ce qui est le nursing, le confort du patient, l'alimentation et tout ça, le temps passé auprès d'un patient a été réduit énormément, puisque un poste, c'est énorme un poste, ça représente très représentatif.
Oui, parce que donc vous expliquez que votre patientèle est passée de 1 pour 8 à environ 1 pour 15, donc 2 fois moins de temps au final pour les patients.
Voilà. Et idem, secteur âgé, hein, personnes âgées, bien entendu, hein, parce que l'hôpital, c'est pas que l'hôpital, on a des EHPAD, et des EHPAD, un repas pour une personne âgée, c'est 5 minutes, faut pas aller au-delà de 5 minutes, quoi. Tout est assez chronométré, les conditions, sont très difficiles. Et eux, ont été, eux, par rapport au Covid, à Saran, par exemple, qui appartient à l'hôpital, ils ont eu un impact très très fort, et vraiment, c'était la dernière roue du carrosse, tant dans l'équipement que dans l'organisation du Covid, ils ont été, le secteur personnes âgées, en grande, grande difficulté, quoi.
Vous pensez qu'il y a un problème en France avec la prise en charge des personnes âgées?
Bien sûr, puisque les fonctionnements, alors le financement public dans le secteur personnes âgées, vous savez que c'est la tripartie, c'est le conseil départemental, l'ARS et la sécurité sociale, et que à chaque fois il faut renégocier, il faut voir l'évolution tous les 3 ans des pathologies des personnes âgées, mais notre population elle est vieillissante, même si les gens restent un maximum à la maison, quand elles sont mises dans les établissements, c'est qu'ils sont vraiment dans une. Ils n'ont plus d'autonomie et que on n'augmente pas les effectifs, et puis que le secteur personnes âgées est de moins en moins motivant, même si on a mis une prime grand âge en janvier pour ces personnels-là, c'est moins en moins motivant et qu'ils sont en réelle difficulté de personnel, et comme ils sont pas beaucoup, et ben ça veut dire qu'il y a une pénibilité, donc il y a aussi beaucoup d'arrêts. Et parce que les conditions de travail sont très très lourdes. Et la prime grand âge, en fait, était une prime de 100 euros net pour les aides-soignants. Mais quand quand vous allez à Saran, c'est 30% d'aides-soignants et c'est 70% d'ASH, qui sont des personnels qui vont faire le même travail que les aides-soignants, tout en n'étant pas formés. Mmh. Ils se forment sur le tas. Donc imaginez 70 francs, ce ratio. Donc il y a des gens, pour faire le même travail entre une aide-soignante et une ASH, au-delà du diplôme plus la prime grand âge, pour faire le même travail, des fois il y a 240 euros de différence de salaire à la fin du mois, mmh, pour faire le même travail. Donc ça aussi, ça divise. Des gens se posent des questions, pourquoi faire le même travail que quelqu'un et être payé 240 euros de mois par mois. Mmh. Donc tous ces systèmes-là qui sont faits par le gouvernement, c'est plus, ça divise plus que c'est fédérateur en fait. Mmh. Parce qu'on dissocie toujours, on sait pas, on généralise pas la chose et les difficultés elles sont là quoi.
Concernant nos aînés, il y en a beaucoup qui ont souffert de la solitude pendant le confinement, mais aussi qui n'ont pas osé aller voir le médecin du fait justement des restrictions sanitaires. Est-ce que vous avez vu certaines choses voilà, je ne sais pas.
La réaction était logique puisqu'il fallait rester confiné, donc les gens ont fait effectivement moins de déplacements, mais il y a des gens par peur ne sont pas sortis.
Oui, voilà.
Après, voilà, il y a des gens qui sont pas sortis, mais qui peut-être ne sortiront jamais, plus jamais, puisqu'ils sont sans doute, on sait qu'on a eu des décès à domicile, et que bah là, maintenant, les gens savent qu'ils peuvent aussi, donc se reprennent en main, qui surchargent sans doute les cabinets médicaux, mais et qui du coup reviennent massivement à l'hôpital pour se faire soigner, mais qui est légitime, hein, et que bah voyez, nous, Covid fini, hop, la deuxième vague arrive. C'est la vague que des gens qui sont restés chez eux, qui ont besoin de se faire soigner, ce qui est normal, arrivent. Donc nous, on respire pas en fait. On fait notre travail, on continue et on prend les événements au fur et à mesure. Donc l'après-Covid, c'est une deuxième vague de patients qui arrivent massivement et c'est normal. Ils étaient chez eux par précaution et c'est normal. Mais ça arrive et nous, l'hôpital continue à vivre. On ne s'arrête jamais. C'est toujours 365 jours sur 365 jours, H24, et l'hôpital est toujours. Et on doit toujours, toujours s'adapter.
D'accord, très bien. Merci, monsieur Kiné.
Ok, pas de souci.
Bonne journée à vous.
Je vous remercie.
Au revoir. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, et à très bientôt sur le Bondy Bloc Centre.
Bondy Bloc Café.
www.bondybloccentre.fr